Radio Prague, les informations.
Le ministre de la Justice relève de ses fonctions, le procureur de Prague. La situation dans les régions menacées par les crues se normalise. La base aérienne de Námež nad Oslavou ne sera pas supprimée. Le ministre tchèque de la Justice Jiří Pospíšil a relevé de ses fonctions le procureur suprême de Prague, Vlastimír Rampula. Le ministre a annoncé sa décision ce vendredi lors d'une conférence de presse. Jiří Pospíšil reproche au procureur, entre autres, son comportement dans l'affaire des transferts illégaux des moyens d'investiční à Poštovní banka, banque d'investissement et de poste, et de ne pas avoir réagi aux décisions erronées de procureurs qui lui sont subordonnés. L'état d'urgence du troisième degré a été décrété dans la proximité de 8 rivières tchèques dont le niveau est monté à cause des pluies abondantes de ces derniers jours. Dans l'après-midi de ce vendredi, les pluies ont cessé ou perdu beaucoup de leur intensité et la situation a commencé à se normaliser. 10 personnes ont été évacuées dans la commune de Mníšek menacée d'inondation. Dans la région de Liberec en Bohême du Nord, 5 colonies des vacances ont été évacuées et plusieurs routes ont été fermées dans les environs de la ville de Rychnov nad Kněžnou en Bohême de l'Est, région menacée également par les inondations. La base aérienne de l'armée tchèque dans la ville de Námež nad Oslavou ne sera pas supprimée. L'État y a investi 4 milliards de couronnes et elle est l'établissement le plus moderne de son genre en République tchèque. C'est ce qu'a déclaré lors de sa visite de la base de Námež nad Oslavou le ministre tchèque de la Défense Alexander Vondra. Les militants du mouvement écologique Duha réussissent à empêcher depuis une semaine l'abattage des arbres atteints par le scolyte, insecte xylophage ravageur, dans la zone protégée du parc national de Šumava. 2 dizaines de militants surveillent la zone concernée depuis plusieurs jours en affirmant que l'abattage des arbres dans cet endroit ne serait possible qu'avec une autorisation spéciale. Cette affirmation est contestée cependant par la direction du parc national de Šumava qui déclare que l'abattage des arbres atteints par le scolyte dans le parc est complètement légal. La direction du parc n'a pas cependant tenu sa promesse de commencer l'abattage des arbres choisis encore avant la fin de cette semaine. Le festival Les Festivités d'été de musique ancienne commence ce vendredi dans le pavillon du Jet de Pomme au château de Prague. Les manifestations de ce festival international sont données en général dans des églises, palais et jardins historiques de Prague. Au programme de la soirée inaugurale de la 8e édition du festival, il y a un concert de l'ensemble allemand Musica Fiata et de la soprano Dorothée Miltz, qui est une interprète renommée de la musique du premier baroque. Météo. Ce vendredi, fête de toutes les Magdalenas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuageux et il pleut encore notamment sur le nord-est du pays. Les températures ne dépassent pas 21 degrés. Samedi, le ciel s'éclaircira progressivement et les températures se situeront entre 17 et 21 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Alexi Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information. Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute du programme en français et vous avez bien raison. Dans notre émission aujourd'hui, nous parlerons d'abord de paradis fiscaux, de pays avec lesquels la République tchèque a récemment conclu des accords pour essayer d'obtenir plus d'informations sur les sociétés qui sont établies dans ces paradis fiscaux. Et puis nous parlerons cinéma, direction Uherské Hradiště, où se déroule depuis ce vendredi la 37e école d'été du cinéma. Dans la deuxième partie du programme, nous reviendrons sur le geste d'un homme qui reste inconnu, même dans son pays natal. Il s'agit de Stefan Lux, qui s'est suicidé en 1936 à Genève, au siège de la Société des Nations, pour protester contre la politique hitlérienne envers les Juifs. Voilà pour le sommaire, très bonne écoute. La République tchèque vient de signer un nouvel accord avec l'île de Man, située entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, en vue d'intensifier les échanges d'informations fiscales. Cette nouvelle entente s'inscrit dans la politique volontariste menée depuis le début de l'année par les autorités tchèques afin de lutter contre l'exode des sociétés vers les paradis fiscaux. Plus d'informations avec Pierre Maignan.
En 2009, un rapport publié par l'agence tchèque d'information sur les capitaux, Tchekia, annonçait que 11 143 sociétés tchèques possédaient leur siège social dans des paradis fiscaux. Un paradis fiscal, selon la définition de l'OCDE, est un pays ou une entité administrative où les impôts sont inexistants ou insignifiants, où le régime fiscal est très opaque et qui ne partage pas ses renseignements fiscaux avec d'autres pays. 3,5% des entreprises tchèques y seraient implantées. Une fuite de capitaux très importante qui constitue autant de recettes fiscales en moins pour l'État tchèque. Celui-ci s'est donc résolu à réagir et à intensifier sa coopération avec les États considérés comme des paradis fiscaux et identifiés comme susceptibles d'accueillir des sociétés tchèques. La République tchèque a ainsi engagé des négociations qui ont permis, depuis le début de l'année, de signer des pactes avec 3 paradis fiscaux appartenant à la couronne britannique, avec l'île de Jersey dans la Manche, avec les îles Vierges, un archipel des Antilles, et dernièrement avec l'île de Man. Jan Knížek dirige les services fiscaux tchèques. Il précise l'objectif et la portée des textes signés.
Ce qui nous intéresse, ce sont les informations relatives à la situation financière des sociétés tchèques, ainsi qu'à leur éventuel patrimoine. Cela inclut notamment les informations concernant la situation des comptes bancaires des établissements financiers qui ont établi leur siège dans ces destinations. Ces accords nous permettent de mettre au clair toutes les informations concernant le patrimoine de ces sociétés. Nous espérons pouvoir ainsi confronter les sujets qui ne payent pas correctement leurs impôts avec leur situation financière et leur patrimoine dans les paradis fiscaux.
À noter que les Bermudes se sont également engagés à communiquer certaines informations aux autorités tchèques, tandis que l'île de Guernesey, qui appartient avec l'île de Jersey aux îles anglo-normandes, serait en passe de conclure un accord similaire avec Prague. Pour autant, la République tchèque peine toujours à établir de tels contrats de coopération avec des pays plus importants tels que Chypre, le Luxembourg ou même l'Autriche, qui est l'un des pays les moins transparents en matière de services financiers et qui compte le taux le plus élevé au monde de banques par habitant, une banque pour 1616 habitants. Ces pays, tous membres de l'Union européenne, sont en effet populaires auprès des entreprises tchèques qui établissent plus volontiers leur siège social. Ces pays, tous membres de l'Union européenne, sont en effet populaires auprès des entreprises tchèques qui établissent plus volontiers leur siège social que dans des paradis fiscaux comme les Seychelles ou les îles Caïmans. L'année dernière, le Luxembourg et les Pays-Bas étaient les pays les plus attractifs pour les entreprises tchèques. Jan Knížek est bien conscient du problème que constituent ces pays plus importants, mieux intégrés à la communauté internationale et donc mieux protégés.
La bonne volonté de ces paradis fiscaux à suivre les recommandations de l'OCDE vis-à-vis de pays de la taille de la République tchèque dépend évidemment de leur potentiel économique. Celui-ci peut être mis en valeur face aux paradis fiscaux en privilégiant les négociations avec d'autres grands pays tels que le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne. Ces pays ne manqueront pas assurément de répondre présent et nous pourrons alors négocier avec les paradis fiscaux sur des bases égales, voire meilleures.
Pour Jan Knížek, la lutte contre les paradis fiscaux doit donc s'inscrire dans une coopération renforcée entre différents États et dans le temps long face à un système opaque et bien organisé. Certains pays, tels que les États-Unis, seraient opposés à toute forme de régulation de ces paradis fiscaux, car ceci constituerait une incitation pour les autres pays à garder une politique fiscale faible.
Suite des faits événements avec du cinéma, le festival de Karlovy Vary n'est pas le seul événement cinéma tchèque de l'été. L'école d'été du film qui commence ce vendredi à Uherské Hradiště, une petite ville de Moravie, accueillera les cinéphiles tchèques pour la 37e fois. Au programme de cette édition figurent notamment des cours animés par Emir Kusturica, une rétrospective de Billy Wilder et le film français des années 50. Plus de détails sur le programme, c'est avec Hanka Niemeczkova.
Le reste de la programmation est aussi prometteur. Pendant 10 jours seront projetés des classiques tels que L'éternel retour réalisé par Jean Delannoy ou La double vie de Véronique par Kieślowski. Les organisateurs ont décidé de rendre hommage à Emir Kusturica et Aki Kaurismäki, les invités de cette année avec des rétrospectives. Mais on s'attend aussi à la première d'un nouveau film de Robert Sedláček, réalisateur tchèque connu pour son habileté à filmer sarcastiquement, mais honnêtement, les côtés moins nobles de la société tchèque. Le film français est aussi présent à Uherské Hradiště. David Čeník, le responsable du programme francophone, a choisi de présenter des films des années 50, dits de tradition de qualité, critiqués par François Truffaut et autres réalisateurs de la Nouvelle Vague. Il nous en dit un peu plus.
Alors, c'était des films, en fait, qui essayaient de poursuivre, disons, la tradition du cinéma français, c'est-à-dire que les films qui ont été tournés dans les studios, avec des gros caméras, avec des vedettes, avec des scénarios en paix littéraire. Et ce que critiquent François Truffaut et les autres réalisateurs, c'est que, en fait, c'est pas des vrais films, c'est des adaptations, et surtout que c'est les scénaristes qui ont le plus de pouvoir sur les films, et c'est pas le réalisateur.
David Tchénik pense que le cinéma français est généralement assez réputé en République tchèque, mais malheureusement peu connu, notamment celui des années 50.
C'est une partie de l'histoire du cinéma français qui est intéressante et qui aussi montre l'évolution du cinéma français de l'après-guerre et montre aussi ce qui se passait avant l'arrivée de la nouvelle vague, parce que il y a quand même une rupture assez radicale entre ce qui se faisait juste après la guerre et à l'arrivée de la nouvelle vague.
Comme son nom l'indique, Letní filmová škola à Uherské Hradiště, ce n'est pas seulement un festival, mais aussi une école estivale du film. Les visiteurs ont l'occasion de participer aux masterclass pour écouter des professionnels parler de leur art. Deux points durs cette année, le Serbe Emir Kusturica et le Finlandais Aki Kaurismäki feront partie des professeurs. Les visiteurs du festival peuvent donc participer aux cours, mais aussi profiter des concerts de Lydia Lunch, performeuse américaine ou du réalisateur également musicien, Kusturica et son groupe No Smoking Orchestra. Kusturica veut également participer au match de foot amical qui sera organisé entre une équipe tchèque et une équipe serbe.
Suite du programme en français de Radio Prague avec la rubrique Miroir de la société à la lumière de la presse tchèque et un peu d'histoire cette semaine. Jan Palach n'était pas le premier tchécoslovaque qui a sacrifié sa vie pour lancer un appel au monde afin qu'il se mobilise face au mal. C'est sous ce titre qu'une des récentes éditions du supplément Orientace du quotidien Lidové Noviny a rappelé l'histoire d'un homme qui avait protesté en 1936 en se suicidant contre la discrimination des Juifs en Allemagne, un geste qui demeure presque complètement inconnu même dans son pays d'origine.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Au début de ce mois de juillet, 75 ans se sont écoulés depuis les jours où Stefan Lux, correspondant du journal Praga Presse, s'est tué d'un coup de revolver tiré dans sa poitrine. Son geste, il l'a accompli pendant la session de la Société des Nations, qui se tenait à Genève et qui était consacrée notamment à la guerre en Éthiopie. Dans sa serviette, on trouvera des lettres dans lesquelles il justifiait son acte par des motifs politiques, des lettres qui ont été adressées entre autres au roi d'Angleterre Édouard VIII, au chef de la diplomatie britannique et aux journaux The Manchester Guardian et The Times. La nouvelle sera immédiatement diffusée dans la presse européenne. Qui était Stefan Lux et qu'est-ce qui lui a inspiré son acte désespéré? C'est Peter Zidek qui s'interroge. L'auteur de l'article publié dans le journal Lidové Noviny signale que l'on ne dispose que de peu de données sûres sur sa vie. On sait que Stefan Lux est né en 1888 à Malacky, une petite ville située en Slovaquie, partie orientale de l'ancienne Tchécoslovaquie, où son père travaillait comme notaire. Devenu juriste, il exerçait successivement différentes professions, travaillant comme dramaturge de cinéma, journaliste, écrivain, d'abord à Berlin, puis à Prague. D'origine juive, c'est dans cette ville qu'il s'est réfugié en 1933 avec sa femme pour fuir Hitler. D'après les informations disponibles, Stefan Lux s'est vu profondément touché par la persécution des Juifs après l'accès au pouvoir d'Hitler, d'où sa décision de mettre sur pied une action afin d'éveiller l'opinion publique. Il a décrit ses plans dans une lettre adressée à son ami pragois Arthur Heller. « Je suis arrivé à Paris et à Genève pour effectuer une action par laquelle j'ai voulu affaiblir considérablement le Troisième Reich. Hélas, mon action a échoué, notamment en raison de l'inertie, de la prudence et de l'apathie qui règne ici à Genève. Voilà pourquoi j'ai pris une autre décision. Lors de la prochaine session plénière de la Société des Nations, je veux provoquer un grand éclat en me brûlant la cervelle. Tout ce qu'il faut, les lettres aux personnalités importantes, tout est prêt.
Espérons que cet acte un peu abrupt arrivera à provoquer un choc au sein de cette société minable et à sensibiliser l'opinion britannique, qui joue un rôle très important. Malheureusement, comme l'écrit le quotidien Lidové Noviny, le geste de Stefan Lux n'a pas connu en Grande-Bretagne de retentissement particulier, en dépit du fait que la nouvelle sur ce suicide ait été publiée non seulement dans les quotidiens européens, mais aussi dans les journaux américains. Son message, adressé au roi, à deux journaux et au chef de la diplomatie britannique, n'a pas été suffisamment diffusé par des médias influents, explique le journal. De l'avis général, Stefan Lux a donné, dans sa lettre adressée au ministre britannique Anthony Eden, une brillante définition du régime nazi et de ses représentants. En voici un extrait. Le groupe qui a usurpé malicieusement le pouvoir et qui manipule la nation allemande, cette même nation qui était jadis si grande, est composé sans exception de criminels. Un jour, l'histoire saura expliquer comment un tel groupe a pu, à l'aide d'une méthode frauduleuse qui n'a pas de précédent dans l'histoire, s'emparer du pouvoir sur cette nation. Mais il sera beaucoup plus difficile d'expliquer comment le monde entier a pu observer cette folie avec une apathie inhumaine, demeurant indifférent face aux cris et aux supplices des êtres vivants. C'est un réel mystère. La lettre de Lux ne représente pas le cri d'un rêveur idéaliste, peut-on lire dans les pages du journal, qui souligne que Stefan Lux était bien conscient de la situation politique et de la répartition des forces en Europe. Il estimait que pour arrêter Hitler, il fallait acquérir l'Italie pour en faire un partenaire de la Grande-Bretagne et de la France. Stefan Lux n'était pas non plus un fanatique qui se serait sacrifié avec joie de cœur léger, ce dont témoigne sa lettre adressée à Arthur Heller, déjà cité, dont voici un autre extrait. Je ne sais pas si mon plan réussira. Je ne peux pas savoir si au dernier moment j'aurai suffisamment de courage, car j'ai peur. J'ai tout simplement peur de la mort. J'ai aussi peur pour ma femme et pour mon fils. Ceci est le plus difficile pour moi, car je les laisse à Prague sans moyens. Ma femme, avec laquelle je vis depuis 14 ans en parfaite harmonie, n'est pas du tout préparée à cela. Et d'ajouter, dans une autre lettre, ne croyez pas que je le fais avec enthousiasme, je ne suis pas un héros, je tiens à la vie, j'ai une femme et un enfant. L'homme qui tenait tellement à la vie est mort dans un hôpital de Genève, 10 heures après son acte. 3 jours plus tard, il a été enterré, en présence de sa femme et de son fils, au cimetière juif de Verrier. Peter Zidek, dans le quotidien L'Innové Novini, s'interroge sur les réactions que l'acte de Stefan Lux a provoquées à l'époque. Il écrit « Il est étonnant que cet événement n'ait trouvé presque aucun écho dans la correspondance diplomatique de l'époque. Dans les documents adressés par les représentants tchécoslovaques de Genève et de Berne à Prague, on n'en trouve presque aucune mention. La même chose pour ce qui est des dépêches de diplomates britanniques. Une mention indirecte à ce sujet a été identifiée dans la correspondance diplomatique française. » La presse tchécoslovaque, quant à elle, a informé de l'événement en se référant le plus souvent à de simples faits. Le journal Prager Post a de son côté pris ses distances avec Stefan Lux, tandis que le quotidien Lidové Noviny a publié l'information sous le titre « Un suicide dramatique lors d'une réunion de la Société des Nations ». Seul le périodique agraire Venkov a publié, 5 jours après le suicide, un article qualifiant le geste de Lux comme un acte prématurément oublié. Plus tard, le nom de Lux ne sera évoqué que dans des périodiques juifs. Le supplément Orientatze de Lidové Noviny illustre cet oubli en citant la journaliste américaine Betty Sargent qui a déclaré « Le message de Lux a été hélas désinterprété par les uns, refusé par d'autres pour être finalement oublié de tous ». Le journal fait remarquer en conclusion que la femme de Stefan Lux avait survécu à la guerre à Prague. En 1945, elle s'est réfugiée en Allemagne où ses traces disparaissent. À la fin de l'article, son auteur écrit « Le sacrifice de Lux a été à son époque vain ». Par ailleurs, tout comme l'étaient 33 ans plus tard ceux de Jan Palach, Jan Zaitz ou Evgen Plotsek. Les 3 jeunes Tchèques qui se sont immolés par le feu pour réveiller la société de la léthargie dans laquelle elle avait sombré suite à l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques au mois d'août 1968. L'historien suisse d'origine tchèque, Lubor Jílek, auquel le journal Lidové Noviny donne également la parole, ne voit cependant pas de parallèle entre l'acte de Stefan Lux et celui de Jan Palach. Il le met en revanche dans la lignée du sacrifice de Szmul Cigelboim, ministre du gouvernement polonais en exil pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a choisi lui aussi la mort en tant que geste de protestation contre l'inactivité des Alliés au moment de l'écrasement du ghetto de Varsovie en mai 1943. Cette deuxième partie du programme en français de Radio Prague vous a été proposée par Alena Gevertova. Alexis Rosenzweig au micro, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet www.radio.cz, www.radio.cz/fr pour les pages en français.